Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu.
Des pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve. On cherche à piéger Jésus, c'est assez classique chez les pharisiens. Mais on le piège avec une question qui hante beaucoup de cœurs, qui, à vrai dire, est une question très actuelle encore aujourd'hui. Question du divorce. Question de la difficulté du mariage. Rien de plus beau que l'amour, rien de plus exigeant que l'amour. C'est même une question difficile. Pourquoi l'amour, qui est vraiment le tout de notre vie, spontanément nous le sentons tous, comment se fait-il que l'amour, qui est vraiment le sens même de notre vie, soit cause de tant de souffrances? L'amour est beau, magnifiquement beau, incroyablement beau, mais source de souffrances incroyables. Comment se fait-il que la vie soit si belle et si dure à la fois? Mystérieux. Les pharisiens cherchent à piéger Jésus. Est-il permis, oui ou non, de renvoyer sa femme? Jésus ne se laisse pas piéger. Et même si on va tout de suite au bout de l'Évangile, il donnera cette leçon magnifique, magistrale: celui qui n'accueille pas le royaume comme un enfant n'y entrera pas. Celui qui ne veut pas entrer dans la perspective du projet de Dieu à la manière d'un enfant, c'est-à-dire sans a priori, pour essayer simplement de comprendre, pour essayer de pénétrer ce projet, ne pourra pas le faire. Il faut que nous puissions nous émerveiller du projet de Dieu, à condition évidemment de chercher à le connaître, et donc d'ouvrir notre cœur pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Jésus le dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit cela. C'est tellement classique et c'est tellement actuel encore une fois. D'une exception, en fait le divorce était une réalité, mais on avait fini par, dans le peuple d'Israël, comme quelquefois aujourd'hui, renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. Aujourd'hui, aussi bien on renvoie le mari, ça revient au même. Et Moïse avait fini par donner cet ordre, au moins qu'il y ait une lettre de répudiation, c'est-à-dire au moins ne jetez pas la femme comme un objet inutile, au moins qu'il y ait quelque chose de juridique. Mais d'une exception, on a fait un espèce de droit. J'ai droit de divorcer. Non, Dieu n'a jamais dit ça, ça n'a jamais été dans le code de la loi de Moïse. Jamais le divorce n'a été autorisé en tant que tel. Mais Jésus ne veut pas entrer dans cette polémique. Il retourne au commencement. Au commencement, ce n'est pas le commencement chronologique, c'est le principe du projet de Dieu. C'est la démarche qu'a faite notre cher Saint Jean-Paul II, d'une façon assez révolutionnaire dans l'Église. Il est parti précisément de ce passage d'Évangile. Il disait, il faut, avec Jésus, retourner au commencement pour comprendre ce que Dieu a voulu faire avec l'homme et la femme, avec la création. Retournons au principe du projet de Dieu. Au commencement, il les créa homme et femme. Et avec ce récit que nous connaissons bien, mais que nous avons entendu de nouveau aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que l'homme n'a de sens que dans la relation à l'autre. C'est-à-dire, dans la création même de l'homme, il y a ce principe, l'homme ne peut pas vivre seul pour lui-même. L'homme n'a pas de signification autrement que dans la relation. Et si l'homme est à l'image de Dieu, c'est précisément pour montrer, pour signifier cette relation qui, au cœur même de la divine Trinité, est la réalité principale. La personne divine est pure relation. Le Père est tout entier vers le Fils est tout entier vers le Père. Et le Père et le Fils partagent le même esprit. L'amour donné, l'amour reçu et redonné, l'amour échangé. Les trois personnes divines n'ont de sens, n'ont de signification, n'ont d'existence même que les unes par rapport aux autres. C'est l'union des deux, disait toujours Saint Jean-Paul II. L'union des deux, l'union de l'homme et de la femme, ish, isha, comme le masculin et le féminin de la même réalité. C'est cette union des deux qui est l'image de Dieu. Il ira très loin dans cette réalité, dans l'explication de cette réalité. Il y a deux manières différentes, distinctes, complémentaires d'être une personne humaine. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Et aujourd'hui, toutes les théories qui voudraient détruire cette réalité cherche à s'attaquer au cœur même de la création de Dieu. Satan sait parfaitement où il attaque et pourquoi il attaque. Toutes les théories qui voudraient dire que l'homme et la femme n'ont aucune différence et que finalement le sexe n'a de sens que dans la jouissance, c'est faux. La sexualité signifie une manière particulière d'être une personne humaine. Et ceci dans la nature même de notre constitution. Je suis homme ou je suis femme, tous les deux nous sommes personnes humaines à l'image de Dieu dans la mesure où nous sommes en relation les uns avec les autres, et particulièrement la relation par excellence qui est la relation de l'époux et de l'épouse. La personne humaine ne peut se réaliser que dans le don mutuel. Jean-Paul II ira jusqu'à dire « on est une personne humaine » quand on entre dans le don réciproque de soi. Et l'époux et l'épouse, dans le don d'eux-mêmes, dans le don total d'eux-mêmes, et dans les gestes les plus ultimes, les plus intimes de ce don, c'est-à-dire très concrètement dans l'union de la chair, dans l'union sexuelle, l'époux et l'épouse sont, dit Jean-Paul II encore, icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Ça va loin, c'est-à-dire, vous voulez savoir qui est Dieu, regardez des époux qui s'aiment et qui, par leur amour, portent la vie. La sexualité est donné par Dieu, est créé par Dieu pour exprimer cette capacité d'amour. Il y a celui qui donne, il y a celle qui reçoit et qui redonne en ayant fécondé. Et ils seront tellement à l'image de Dieu qu'ils porteront ensemble la vie, soit une vie nouvelle par un enfant, soit simplement, mais c'est beaucoup, le rayonnement de leur amour. Voilà le merveilleux projet de Dieu. La ressemblance avec Dieu, c'est cette communion des cœurs et cette communion des corps. Oui, vraiment, ceci, cette fois, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et pour ne faire qu'une seule chair. De deux, ils seront une seule chair. Bon, c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que c'est difficile. Et la vie de tous les jours nous montre bien que c'est difficile. Vous connaissez des familles qui ne souffrent pas ? Vous connaissez des couples qui n'ont pas connu d'épreuves ? C'est difficile à cause du péché qui s'est mis en travers de ce projet d'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est le péché ? Au lieu de donner, j'ai cherché à prendre. Quel que soit mon péché, quel que soit le péché qui est en travers, c'est toujours cette réalité. Au lieu de donner, je cherche à prendre. Au lieu de donner à celle qui est mon épouse, au lieu de donner à la paroisse pour un curé, au lieu de donner, je cherche à utiliser. Je retourne le sens du don. Alors, la souffrance vient avec un amour qui devient falsifié, un amour qui s'abîme, un amour qui se détériore. Je vois deux grandes difficultés. La première difficulté, c'est, j'en ai bien conscience, et je dis tout ça en tremblant parce que ces sujets sont tellement difficiles, tellement délicats, particulièrement aujourd'hui dans notre monde. La première grande difficulté, c'est que je parle aussi devant des célibataires, des personnes qui ne sont pas mariées, et qui vont me dire, mais alors tout ça c'est magnifique, mais est-ce que c'est pour moi quand même ? Oui, c'est pour chacun. Moi aussi je suis célibataire, au sens où je ne suis pas marié. Et pourtant je suis marié dans la mesure où mon cœur est donné, ma vie est donnée. Ma vie est donnée comme celle du Christ à l'Église. Et tout cela prend du sens. Il y a des célibataires qui n'ont pas choisi leur célibat. Il y en a qui l'ont choisi pour la gloire de Dieu et le royaume. C'est une autre affaire et nous pourrons en parler une autre fois. Mais il y en a, nous le savons bien, il y en a tout près de nous, des personnes qui subissent le célibat comme quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Alors, ils devront découvrir, par un chemin de souffrance peut-être, mais un chemin de lumière, il faudra découvrir comment se donner d'une autre manière que dans le mariage. Mais le mariage n'est pas la seule manière de se donner, heureusement. Nous avons tous dans nos familles des saintes tantes ou des saints oncles qui ont été tout à fait donnés, complètement donnés à leur famille, à leurs neveux et leurs nièces, ou à l'Église, ou d'une manière ou d'une autre. Et ces personnes-là ont été épanouies aussi dans leur célibat. Et ils reflètent quelque chose de la gloire de Dieu. La deuxième grande difficulté, c'est dans le mariage lui-même. Les échecs que nous connaissons, des couples qui souffrent et puis des couples qui divorcent. Je vais choquer peut-être, mais je voudrais le dire avec force, le divorce n'est pas un péché. Et même, vous allez trembler, le divorce n'est pas interdit. Le divorce, c'est une affaire civile, c'est un constat d'échec. Nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas pu. Qui jugera ? Qui jugera ? Personne. Et celui qui juge est comme les pharisiens qui cherchent à enfermer, à piéger. Que savons-nous du chemin qu'ont parcouru ceux qui ont divorcé ? Que savons-nous du chemin de douleur et de difficulté qu'ils ont traversé ? Il y a des péchés qui conduisent au divorce. Le divorce lui-même est un constat d'échec. Peut-être que ce constat est fait quelquefois trop tôt et qu'on aurait pu peut-être avec de l'aide. Est-ce qu'on a trouvé l'aide suffisante ? C'est une autre affaire. Peut-être qu'on aurait pu, avec de l'aide, aller plus loin. Peut-être qu'on aurait pu, avec de l'aide, rétablir même ce qui semblait perdu. L'aide humaine de certains conseillers, de certaines personnes qui sont formées pour, mais l'aide surtout de la grâce. Pas de jugement. Aucun échec n'est trop grave pour n'être atteint par la miséricorde de Dieu. J'insiste encore, aucun échec, aucune rupture n'est trop grave que la miséricorde de Dieu ne puisse pas rétablir dans l'éternité ce qui a été pour un temps abîmé. Ça devrait être une espérance formidable pour tout le monde, y compris pour ceux qui croient être rejetés parce qu'ils ont subi cette douleur du divorce. Mais si le mariage est indissoluble, et il l'est même doublement, il l'est dans sa nature même, à cause de la création, à cause du projet de Dieu. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. On ne peut pas ne pas donner tout entier. On ne peut pas ne se donner que, on ne peut pas ne se donner autrement que entier. Mais le mariage est indissoluble pour la deuxième raison, et c'est ce que Jésus dit en filigrane. Jésus meurt pour que le sacrement de mariage puisse être établi et donner divinement la force de vivre quelque chose qui humainement est parfois impossible. La nature est esquintée par le péché. La nature a été abîmée profondément, blessée. Mais la surnature, la grâce, vient à bout de toutes les épreuves, le croyons-nous. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Oui, Moïse vous a donné cette possibilité à cause de la dureté de votre cœur, mais moi qui vais, les apôtres ne pouvaient pas encore le savoir, nous le savons, l'Église le sait. » Et c'est la deuxième lecture, la lecture des Hébreux que nous avons entendue. Jésus va jusqu'au bout pour, sur la croix, refaire, revivre ce qui avait été au commencement, l'homme plongé dans un profond sommeil, un sommeil mystérieux, non plus le sommeil d'Adam, mais le sommeil de la mort de Jésus sur la croix, pour que de son côté ouvert, et non plus simplement de sa côte comme Adam, soit tirée la femme nouvelle, la nouvelle Ève, la Vierge Marie qui représente à ce moment-là toute l'Église. Voilà l'époux avec un grand E, le nouvel Adam, l'épouse avec un grand E, la nouvelle Ève. Et dans cette puissance de la mort de Jésus, dans cette puissance du sacrifice d'amour de Jésus, tout est possible. C'est vrai, c'est vrai. Les sacrements doivent être cohérents. Et si des personnes séparées, non seulement ne sont pas rejetées de l'Église, mais ne sont pas privées de la communion, si la faute éventuelle qu'elles auraient commise a été pardonnée dans le sacrement de la réconciliation, et je tiens à le redire parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, les personnes divorcées peuvent communier si elles ont reçu, comme tout le monde d'ailleurs, le sacrement du pardon. Reste la question des divorcés qui se sont remariés, qui ont découvert une nouvelle union. Qui jugera ? C'est vrai, la discipline et la cohérence des sacrements fait qu'on ne peut pas communier au sacrement de l'Eucharistie tout en communiant dans le mariage à une union qui n'est pas celle qui est sacramentelle. Mais on n'insistera jamais assez, et le pape le fait à temps et à contre-temps. Ça n'est pas d'abord la discipline qu'il faut dire, mais l'accompagnement des personnes dans la miséricorde. La plupart de nos contemporains, même dans l'Église, même les chrétiens pratiquants, ne savent rien de la réalité de la discipline de l'Église. Alors on reste sur des a priori, et on se croit rejeté, ou on se croit le droit d'exiger. Ça n'est pas d'abord la discipline qui compte, c'est l'enseignement et l'accompagnement personnel des personnes dans la miséricorde inépuisable du Seigneur donnée dans l'Église. C'est la tendresse de Dieu. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que nous accueillons tout cela comme des enfants ou est-ce que nous exigeons comme des adultes qui revendiquent ? Aujourd'hui, rendons grâce pour le mariage, pour la beauté du mariage. Rendons grâce pour la réalité de la famille, de toutes nos familles. Et prions et confions à la Vierge Marie tous les couples qui souffrent dans leur mariage. Prions pour les célibataires qui souffrent dans leur célibat. Prions pour les divorcés qui souvent se sentent rejetés ou abattus. Prions pour tous ceux qui se sentent jugés et qui en réalité sont aimés. Est-ce que nous, dans notre paroisse, Saint-Philippe-du-Roule, est-ce que nous serons une manifestation de la miséricorde de Dieu pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation et leur état de vie ? Demandons la grâce d'être les uns pour les autres, ce visage de la tendresse et de l'amour de Dieu. Amen.